conférence privée par le père Philippe, Saint-Joseph, le 21 novembre 84.
On commence bien à l'heure. Par miséricorde pour les novices qui sont fatigués, n'est-ce pas ? Le mystère de la présentation, j'y reviens quelques instants, parce que je crois que c'est quand même pour nous une très grande lumière, ce mystère. Le mystère de la présentation qui est le point de départ, l'alpha, dans l'économie divine, de tout mystère de la consécration religieuse. Ne disons pas que c'est l'Église qui l'a inventé, c'est l'Esprit Saint dans le cœur de Marie. C'est ça qu'on doit dire, hein, quand les gens vous disent c'est l'Église qui a inventé la vie religieuse. Non, c'est pas vrai. C'est l'Esprit Saint dans le cœur de Marie. Alors je veux bien que c'est un grand secret. Ah, ça c'est très vrai. Que ceux qui comprennent, comprennent. C'est Jésus qui le dit du reste. Lui-même. À propos des eunuques volontaires, hein, que celui qui comprenne, comprenne. C'est un mystère caché. Je dis ça, c'est parce que nous pouvons à certains moments être un peu tentés. Qu'on soit religieux ou qu'on soit pas religieux, il faut être dans la vérité, hein, par rapport à la sagesse de Dieu. Qu'on dise, oui, c'est pas ma vocation. C'est sûr, c'est pas la vocation de tout le monde. C'est bien évident. Faut pas vouloir que tout le monde soit religieux et religieuse. Ça craquerait partout. Alors, mais qu'on ait un zèle pour la vie religieuse, oui, ça oui. Parce que c'est quand même la meilleure part. Objectivement, c'est la meilleure part. Alors si on a bon goût, divinement, on doit avoir un zèle pour tous ceux que nous connaissons et qui peuvent être capables de le mener. On doit, je crois que c'est nécessaire. Ce ne serait pas bien de ne pas avoir ce zèle. Ça voudrait qu'il y a quelque chose en nous qui ne va pas, qu'on a mauvais goût, donc on a un peu de fièvre. Des fièvres paludiennes, des fièvres qui font qu'à ce moment-là, on ne sait plus goûter les choses comme on doit les goûter. C'est très frappant de voir que tout a commencé par ce lien de Marie avec le Père. C'est très impressionnant, les liens de Marie avec le Père. C'est une des très très belles choses du mystère de Marie, d'essayer de comprendre comment Marie nous révèle la paternité, d'une manière très étonnante. Joseph la révèle, c'est bien évident, de toute façon plus visible, c'est l'autorité paternelle que Joseph révèle. Tandis que Marie, elle révèle ce qu'il y a de plus secret dans le Père. Ce qu'il y a de plus mystérieux dans le Père. Le verbe est in sinu patris. Est-ce que ce n'est pas cela que Marie nous révèle? Le Père, source de vie, de lumière et d'amour. Marie révèle la source. Joseph, c'est l'autorité. L'autorité n'est pas une source. Et donc, il y a quelque chose du Père. C'est vrai, toute autorité vient du Père. C'est sûr, toute autorité vient du Père. Et donc l'autorité suit la paternité. Mais ce n'est pas la paternité. La paternité est plus que l'autorité. C'est source de fécondité. C'est source de lumière et d'amour, source de vie. Et Marie révèle le mystère du Père. Source de vie, source de lumière, source d'amour. Et je crois qu'il faut entrer dans ce mystère. Marie qui nous révèle tout le mystère de la très sainte Trinité. Vous savez bien, je vous ai déjà dit, ce théologien franciscain réformé, n'est-ce pas ? Vous voyez bien, alors ils sont très simples, les franciscains réformés. Ils ont une simplicité très particulière. Eh bien, les franciscains réformés, ils ont quelquefois des intuitions merveilleuses. Eh bien, un franciscain, je crois que c'est au XVIe siècle. Il était réformé parce qu'il avait des intuitions. Alors, on est toujours réformé quand on a des intuitions, vous comprenez, on va à la source comme ça. Et là, ce franciscain, il disait « Marie complementum totius trinitatis ». Marie, le complément de toute la très sainte Trinité. C'est si merveilleux. Elle est le plérôme de toute la très sainte Trinité, le complément. C'est-à-dire celle qui conduit et celle qui achève. Tout le mystère de la très sainte Trinité nous est donné par Marie, nous est donné en Marie, de façon très particulière. Et je crois qu'il y aurait à regarder très fort tout le mystère de Marie comme réfléchissant, reflétant pour nous, nous communiquant, nous donnant d'une manière visible, comme un sacrement, de la paternité. Il y a toujours des liens très particuliers, vous savez, entre les pères et les petites filles, et leurs petites filles. Il y a toujours des liens particuliers, ça, Dieu a voulu que ce soit comme ça, des liens très très spéciaux. Il y a des tendresses qui ne peuvent s'exprimer comme ça dans les familles. Il faut bien le reconnaître. Et quand la petite fille est Benjamine, la petite dernière, alors elle risque d'être gâtée de temps en temps, évidemment, alors on fait attention. Mais autrement, elle est très très aimée. Et Marie, elle est la petite fille bien aimée du Père. Elle est enveloppée d'une manière très étonnante du Père. Et je crois que ce mystère de la présentation, vous voyez, pour nous, qui représente le point de départ de la vie religieuse. Est-ce que le point de départ de la vie religieuse, justement, ne doit-il pas se comprendre dans cette relation avec le Père ? Ce serait peut-être un aspect très très beau à développer de la vie religieuse, qui n'a pas été, il me semble, je ne sais pas, parce que je n'ai pas tout lu sur la vie religieuse, loin de là, mais il me semble que ça n'a pas été développé, ce lien avec la paternité. Et ce lien avec la paternité nous aiderait peut-être à comprendre certaines choses qui, dans notre monde d'aujourd'hui, vous voyez, disparaît. On a beaucoup de peine dans le monde d'aujourd'hui à comprendre la vie religieuse. Il faut bien se le dire, ça. Parce que, de fait, tout ce que représente la contamination de notre milieu chrétien, il reçoit un bombardement, hein. Celui de Freud, celui de Nietzsche, celui de Marx. C'est toujours contre la vie religieuse. La vie religieuse est une des choses qu'on rejette de la manière la plus violente qui soit aujourd'hui. Parce que la vie religieuse, peut-être, j'avais jamais pensé de façon particulière, et c'est en vivant un peu ce mystère de la présentation depuis hier, où je me suis dit, mais là, il y a un lien très mystérieux avec la paternité. Est-ce que ce n'est pas le Père qui, dans son attraction d'amour, puisque c'est le Père qui attire, est-ce que ce n'est pas le Père qui, dans son attraction d'amour, réclame ça de Marie ? Réclame de Marie quelque chose qu'il n'avait pas encore réclamé, avec l'absolu. Alors, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint et de Marie, mais c'est l'attraction du Père. C'est l'attraction du Père à l'égard de sa petite enfant bien-aimée. On comprend très bien cela pour que Marie ne soit qu'au Père, qu'elle lui soit comme réservée, qu'elle soit toute à lui. C'est la part de choix que le Père fait et il veut que Marie lui soit tout entière donnée, consacrée. Alors, si on regarde l'attraction du Père, vous voyez du côté de la finalité, si on essaie de comprendre ce que c'est que cette attraction du Père, on comprend très bien que cette attraction du Père, si elle est, puisqu'elle est substantielle, elle est substantielle, ça on ne peut pas nier, l'attraction du Père est substantielle, elle est radicale, elle est première, et elle est ultime. Alors on comprend que cette attraction réclame comme réponse un don absolu, un don total, un don de tout l'être, un don de tout le cœur, un don de toute l'intelligence. Alors est-ce que ce n'est pas cela, cette réponse de la vie religieuse ? C'est le don de tout l'être, c'est le don de toute l'intelligence, c'est le don de tout le cœur. Et quand je prends l'être, c'est le don de toutes nos capacités, vous voyez, de toutes nos énergies vitales. C'est tout cela qui doit être donné au Père, qui doit être pris par le Père. dans cette attraction d'amour que le Père doit exercer sur nous et qu'il a exercé sur Marie. Est-ce que la vie religieuse n'est pas dans ce qu'elle a de tout à fait fondamental, premier, puisque le mystère de la Très Sainte Trinité n'est pas encore révélé. Mais le mystère du Père demande d'être révélé à Marie d'une façon très spéciale pour que Marie puisse, au moment de l'Annonciation, recevoir cette révélation de la Très Sainte Trinité, qu'elle ne soit pas scandalisée. Si on ramène le Père uniquement à Dieu, vous voyez dans quel sens? Si on ramène le Père à la déité, si on ne regarde plus que le Dieu un, alors on est scandalisé de voir que le Père puisse avoir un fils. On est scandalisé devant la révélation de la fécondité de la fécondité en Dieu. Et donc on est scandalisé en face du Fils qui parle du Père comme un fils bien-aimé peut parler de son Père. Si au contraire, on est attiré par le Père et on veut creuser le plus possible toutes les richesses du Père comme une source de vie, comme une source d'amour, comme une source de lumière, si le Père nous révèle son mystère propre, son mystère de paternité à l'égard d'un fils bien-aimé. À ce moment-là, c'est une joie profonde. Et ça exprime cette joie, je crois, profonde que Marie a dû vivre dans le mystère de l'Annonciation. Elle avait vécu cette attraction du Père. Elle s'était donnée totalement au Père. Quand elle a rencontré Joseph, elle ne savait pas ce que Dieu voulait d'elle, ce que le Père voulait d'elle, mais elle était heureuse de trouver en Joseph comme un reflet du Père. Et c'est ça qu'elle a aimé en Joseph. Et c'est ça qui l'a attiré, ce reflet du Père. Il était l'autorité. Il était l'homme que Dieu lui envoyait pour être en quelque sorte quelqu'un qui lui donnerait comme un soutien visible, comme un soutien dont elle avait besoin, étant donné qu'elle connaissait d'une façon si forte sa fragilité. Mais la paternité du Père s'exerçait encore plus sur elle. Elle comprenait que Joseph étant là, il fallait que l'attraction du Père soit encore plus forte sur elle. Elle ne voulait rien retirer au Père. Je voyais récemment quelqu'un qui hésitait entre la vie religieuse et le mariage. Et elle me disait avec une simplicité, c'était très très beau, elle me disait, j'ai dit au Seigneur, faites ce que vous voulez, mais je vous en supplie que ça ne retire rien à mon don par rapport à vous. Ça, je ne pourrais pas le supporter. J'accepte tout, mais je ne peux pas supporter. C'était dit avec une telle limpidité que je pensais à Marie. Quand elle a rencontré Joseph, elle a dû, au plus intime de son cœur, supplier le Père que cette rencontre avec Joseph, qu'elle acceptait, qu'elle aimait, ne retire rien à l'attraction du Père sur elle. Et qu'elle puisse être donnée au Père avec la même force. Et même, pour que justement ça ne retire rien, il fallait qu'elle se livre encore plus au Père, pour qu'elle soit encore plus liée à lui, encore plus donnée. Alors la vie religieuse apparaît, vous voyez, à ce moment-là, comme ce qui nous dispose de la manière la plus forte à la contemplation. C'est par la vie religieuse que nous pouvons le mieux nous approcher du Père et entendre cette révélation qui est toujours personnelle, comme toute révélation à l'égard de la contemplation, entendre comme Marie, cette révélation de la paternité à l'égard du Fils bien-aimé, puisque c'est ça la contemplation. La Très Sainte Trinité, on ne peut y accéder que dans la contemplation. Le Dieu unique, on y accède par l'adoration. Et le Dieu trine, c'est par la contemplation. Et c'est par la contemplation qu'on peut y accéder, il n'y a pas moyen autrement. Marie adorait Mais la consécration de Marie va mettre comme un don plus fort encore à Dieu. L'adoration la consacre corps et âme. Mais Marie veut aller plus loin dans cette consécration. Elle veut que ce soit une consécration toute d'amour. L'adoration est le fondement. Mais c'est le fondement. Et la consécration de Marie au Père, c'est la consécration de la petite enfant bien-aimée à son Père. Je vous disais tout à l'heure, c'est le baiser de la petite enfant du Père à son Père. Et c'est vrai. La consécration religieuse, c'est ce baiser. Parce qu'on veut que Dieu soit tout pour nous. Et donc, il y a une jalousie de Dieu qui s'exerce sur nous. Et le baiser du Père, c'est bien cette jalousie du Père sur nous. C'est bien cette jalousie du Père sur le cœur de Marie qui l'attire à lui et qui la prend pour qu'elle soit totalement donnée et entièrement donnée. Et c'est cette consécration religieuse de toute elle-même, dans la crainte, c'est-à-dire dans la très grande pauvreté, dans la très grande humilité, dans la petitesse. Cette consécration religieuse la met toute proche de cette rencontre avec Joseph, c'est-à-dire l'éclosion de la charité fraternelle. Et plus profondément encore, l'éclosion de la contemplation. C'est à partir de cette consécration que la contemplation de Marie va pouvoir s'épanouir pleinement et totalement. Et on peut dire, et ce serait très beau à regarder, on le fera peut-être ensemble, parce que je crois que c'est un des grands aspects du mystère de Marie, comprendre comment Marie, à travers toutes les étapes de sa vie, est de plus en plus la petite fille bien-aimée du Père, celle qui est enveloppée de toutes les miséricordes du Père, et ceci en fonction même de cette consécration. Parce que le Père a dû être tellement touché au plus intime de lui-même dans cette consécration de Marie. Ça a dû être pour lui ce qui, d'une certaine manière, dans son cœur, a réparé toutes les ingratitudes des hommes. Ce n'est pas au niveau de la justice, voyez. Jésus, à la croix, il y a la justice par rapport au péché. Marie, c'est par rapport à la tendresse du Père. Et il faut quelqu'un qui, dans sa tendresse et dans sa pure tendresse de tout petit enfant, puisse réparer toutes les indifférences des hommes. Toutes les négligences des hommes, tous les repliements des hommes sur eux-mêmes. Pour la tendresse du Père, c'est quelque chose qui est particulièrement dur, cela. Le Père de l'enfant prodigue, hein, on le voit bien. Et là, nous touchons bien un des aspects les plus profonds du cœur du Père. Alors, Marie n'est pas l'enfant prodigue, mais Marie, elle est éminemment l'enfant prodigue de l'humanité. Par rapport à toute l'humanité, elle est celle qui s'élance vers le Père avec une telle force. Elle est immaculée pour cela, pour pouvoir être celle qui peut se donner totalement pour tous les hommes, en devançant le mystère de sa maternité. C'est normal. Alors, elle touche la tendresse du Père, là. Et le Père est tellement saisi par ce don de Marie qu'il va y avoir comme un lien. La vie religieuse, c'est une alliance. C'est bien évident. C'est pour pour ça que certains religieux, vous savez bien, veulent signifier leur consécration à Dieu en prenant une alliance, une bague. Nous ne le faisons pas, mais elle est invisible et elle est réelle, parce que c'est une alliance. On a une alliance qui vient du Père et que le Père nous donne. Et c'est une alliance avec le Père, une alliance invisible qui nous lie à lui et qui fait que nous sommes à lui, le Dieu de Marie. Au-delà du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu de Marie, par cette alliance. Et par nos vœux, nous entrons dans cette alliance, à la suite de Marie, derrière elle et avec elle et en elle. Nous entrons dans cette alliance secrète avec le Père. Et nous nous préparons de cette manière à recevoir le don que le Père nous fait de son Fils. Et à vivre de ce don pour que nous puissions être vraiment ceux qui réparent tous les manques de tendresse de l'humanité, des hommes, tous les manques de ferveur, toutes les ingratitudes. On voudrait faire que par un cœur fervent et brûlant, par ce don total de tout nous-mêmes, nous puissions dire au Père que nous l'aimons comme Père et que nous l'aimons comme source de toute vie, de toute lumière. Nous l'aimons d'une manière excessive. Pour lui, rien n'est trop. Et donc nous lui demandons de recevoir ce don que nous faisons de tout nous-mêmes, en lui confiant tout et en lui donnant tout. Si la présentation de Marie est au point de départ de toute l'économie divine, vous comprenez bien comment Marthe avait raison de dire qu'il fallait que la vie religieuse, pour se renouveler, pour reprendre toute sa force, regarde de nouveau Marie dans sa consécration religieuse, dans son don. Chaque fois que je prêchais à Châteauneuf les engagements, je revenais toujours au mystère de la présentation. Et je demandais à Marthe si elle était bien d'accord. Et Marthe, chaque fois, m'a dit, c'est cela que nous devons vivre aujourd'hui. Et voyez, là, on voyait bien combien Marthe vivait de l'esprit de la vie religieuse, pleinement et totalement. C'est ça, la consécration. L'aspect juridique est second, hein. Alors, c'est quand même assez étonnant de voir que ce qui est au point de départ doit être au terme. Et que sans doute, c'est cela que l'Esprit Saint réclame de nous d'une manière très particulière. De vivre de ce mystère de la présentation, de le creuser divinement et être unis au Père grâce à Marie et par elle, d'une façon très spéciale. Que l'esprit de nos vœux nous fasse vivre ce lien avec le Père, avec sa miséricorde. Le Père comme source, au-delà de l'autorité, vous voyez, ça va beaucoup plus loin du reste. Parce que l'autorité, c'est toujours un peu endigué. Tandis que lorsqu'il s'agit d'un Père, il peut tout demander. Il peut tout demander, un Père. Il peut même offrir sa fille, comme la fille de Jephthé, hein, vous savez bien, le général, hein, ce qui était le père de Jephthé, et qui offre sa fille, c'est extraordinaire. Et ça dit quelque chose, évidemment, d'une façon très très mystérieuse, comme beaucoup de ces textes, mais c'est quand même très extraordinaire, cette offrande que fait ce père. Cette fille qui se précipite vers lui, et il est obligé de l'offrir. Père a offert Marie. Et c'est vrai, il l'a offert à la croix. Parce qu'il pouvait tout lui demander. C'était pas un acte d'obéissance. Il pouvait tout lui demander. Ça va bien plus loin. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. C'est une espèce de spontanéité qui jaillit notre cœur parce que, justement, on a tout donné, on n'a rien gardé pour soi. Alors on a ces délicatesses particulières. On a cet affinement particulier dans l'ordre de l'amour. Si on n'a pas cet affinement du côté de l'amour et qu'on retombe, voyez, dans une espèce d'obéissance juridique, ça ne va plus du tout. Alors la vie religieuse risque d'être comme une prison. Tandis qu'au contraire, la vie religieuse nous met à la source de tout amour, de toute lumière, de toute vie, quand justement on découvre le Père. Et on découvre que nos vœux, nous les faisons vraiment liés à lui, pour vivre de cette intimité, de cette tendresse, de cette intensité d'amour que le Père veut nous communiquer, nous donner. Il faut demander ça à la Vierge Marie aujourd'hui, qu'elle nous donne un sens très très profond, un sens théologal dans la lumière du Père, de nos vœux de religion. Que ce soit vraiment dans cette lumière-là que nous puissions les vivre et que nous les vivions de plus en plus dans cette lumière-là. Ça nous dispose à la contemplation et ça permet à la contemplation de trouver en nous un terrain pur, bien labouré, dans lequel le Père pourra réaliser tout ce qu'il veut, selon son bon plaisir. Je reviens quelques minutes à Saint-Jean, dans la même lumière, parce que ça ne me quitte pas. Nous avions essayé de comprendre, et c'est peut-être dans la lumière d'aujourd'hui que nous pouvons revenir sur ce passage si mystérieux. Et je voudrais qu'on y réfléchisse beaucoup. Ce passage mystérieux de Jean le théologien par rapport à son peuple, par rapport au peuple d'Israël. Donc la fin du chapitre 12, cette chose si mystérieuse. Voyez le partage des eaux. Parce qu'il y a un partage des eaux qui se fait quand même, d'une façon très étonnante. Marie, au terme de toute l'attente, dans son mystère de l'Immaculée, Marie qui subit l'attraction du Père d'une façon prodigieuse, avant la venue du Christ. Mais à cause des mérites du Christ, c'est bien ça qu'il faut comprendre. La grâce de l'Immaculée Conception, c'est une grâce chrétienne, hein, faut pas l'oublier. Ce n'est pas une grâce de retour au paradis terrestre. Ça, c'est des rêves de théologiens. C'est donc Scott qui croyait ça. C'est un rêve de théologien de dire que Marie retourne au paradis terrestre. Mais non, l'Esprit Saint n'agit jamais comme ça. On ne retourne jamais en arrière. Hein. C'est toujours devant. Et c'est tellement important. Vous voyez, même quand, soi-disant, si l'Église fait de faux tournants, il ne faut pas revenir en arrière. Dieu se sert même de ces faux tournants pour faire quelque chose de mieux. Quand on retourne en arrière, on est changé en statut de sel. Et c'est vrai. Et pour les éternités d'éternité. Parce que statut de sel, c'est pas très drôle. Alors, et on veut tout le temps retourner en arrière. Parce qu'au fond, on a une soif de voir qui a raison et qui a tort. Bien quand on s'est bataillé entre frères, hein, pour des questions d'héritage, parce que c'est toujours pour des questions d'héritage qu'on se bataille. Alors quand on s'est bataillé entre frères pour des questions d'héritage, 10 ans après, 20 ans après, où toutes les passions sont un peu calmées, alors mon cher ami, hein, On va revenir un tout petit peu. On va regarder objectivement ce qui s'est passé. Et on se dit dans le fond de son cœur, pour que tu comprennes que tu as eu tort et que c'est moi qui avais raison. Alors c'est ça. Et c'est ça une réconciliation. C'est pas du tout une réconciliation d'accuser l'autre qu'il a eu tort et que nous avons eu raison. Et que nous étions du bon côté. C'est vrai, si nous sommes du bon côté, on n'en peut rien d'être du bon côté. C'est de la gratuité pure. Ça fait partie du mystère de Dieu pour nous. Mais si on est du mauvais côté, souvenez, je vous ai dit, je crois, une fois, c'était à Fribourg, tout à fait au début, quand je suis arrivé, je m'étais trouvé devant une Lyonnaise huguenote qui tout de suite m'a dit, mon père, je suis Lyonnaise et huguenote. Je ne sais pas si ça fait un bon mariage, mais ça fait quelque chose d'assez particulier. C'était en même temps une femme très remarquable. Elle avait fait de son temps. Une Lyonnaise huguenote. Qui tout de suite m'a dit, mon père, je suis Lyonnaise et huguenote. Je ne sais pas si ça fait un bon mariage, mais ça fait quelque chose d'assez particulier. C'était en même temps une femme très remarquable. Elle avait fait de son temps des études des beaux-arts, de peinture, avec tout ce que ça implique, vous voyez. Huguenote, ne cherchez pas à me convertir. Je lui ai dit tout de suite, madame, qu'est-ce qui vous dit que je cherche à vous convertir ? Elle m'a dit, ah, vous êtes catholique, donc vous voulez que je revienne au bercail ? Je lui ai dit, non, je ne vous connais pas, je ne vois par définition faire ça, je vous respecte. Très bien, c'était resté comme ça, mais elle tournait autour, hein, de façon remarquable, parce qu'elle avait une telle soif. Et son fils était un peu comme ça aussi. On avait le même âge, du reste. Un beau jour, il y avait quand même pas mal de personnes, il me dit comme ça, devant tout le monde, « Père, est-ce que je suis un hérétique pour vous ?» Alors, je dis, mon cher ami, je n'ai jamais pensé à ça en vous regardant. Vraiment ? Non, jamais. Parce que vous êtes né dans le protestantisme. Vous avez été baptisé dans le protestantisme. Vous aimez le Christ. Vous n'avez jamais quitté l'Église catholique. Il ne s'attendait pas à ça. Surtout qu'il avait épousé une catholique en plus. Alors vous comprenez qu'il avait donc épousé le catholicisme. En épousant son épouse catholique, il avait accepté. Alors je lui ai expliqué. Je lui ai dit, vous n'êtes jamais opposé. Il a dit, ah non, jamais. J'aime beaucoup l'Église catholique, je la vénère. Je suis né dans l'église protestante. C'est vrai, je suis né dans l'église protestante, j'ai reçu le baptême protestant, j'ai été éduqué de cette manière-là. On voit très bien, oui, quelqu'un comme ça, lui faire revenir au moment... Mais non. Et je lui ai dit, si nous aimions plus le Christ, les uns et les autres, on serait un. Si on aimait plus le Christ, si on allait plus loin, on serait un. Et on comprendrait à ce moment-là que la brisure qui s'est faite, c'est pour une unité plus profonde. Jean, à la fin de sa vie, voit cette chose terrible, son peuple aurait pu recevoir Jésus. L'Église s'est installée à Rome. Pour Jean, ça représente quelque chose. Jean n'est pas parti à Rome. Il est resté en Asie mineure, Éphèse. Jean, à la fin de sa vie, à Patmos, quand il voit ce qui se passe, cette brisure, hein, si forte, si profonde, pour des a priori de pouvoir, de domination des grands prêtres qui n'ont pas accepté. Jean était lucide, hein, il savait bien que les grands prêtres n'ont pas accepté que Jésus passe devant. Jalousie pontificale, hein. C'est terrible. Jalousie fraternelle, c'est pas commode. Jalousie sacerdotale des vieux curés, c'est pas commode. Hein. Et jalousie pontificale, alors là, c'est effrayant. Ça fait un troisième degré, vous voyez. Alors ça fait quelque chose d'affolant. Oui, parce qu'on dit on a autorité, on doit garder l'autorité, oui, mais au fond, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. Jean réfléchit sur cette chose terrible que le peuple d'Israël qui aurait dû recevoir. Vous comprenez que Jean a sûrement parlé à Marie plus d'une fois là-dessus. C'est impossible autrement. Parce que Marie aussi est enracinée dans son peuple. Et elle l'aime. Et Jean l'aime. Comment expliquer que 2000 ans de préparation, aboutissent à ce terrible échec? Ah, il y a eu, évidemment, il y a eu une merveilleuse victoire dans le cœur de Marie, dans le cœur de Jean, dans le cœur de Pierre, dans le cœur de Saul de Tarse, dans le cœur de tous les apôtres et de tous les disciples. C'est merveilleux, mais tous les autres, on ne peut pas se séparer d'eux, c'est impossible. Vous voyez cette séparation qui se fait, Marie au sommet de cette tendresse du Père. Et Jean le sait bien. Elle est sa mère. Il la connaît. Et plus il la connaît, plus il voit ce chef-d'œuvre merveilleux de cette grâce chrétienne en Marie. Et comment tout est repris en elle. Et radicalement. Donc l'atavisme lui-même est purifié. Ça, c'est très, très mystérieux, mais c'est, je crois qu'on doit le dire, parce qu'elle est, dès sa conception, pleine de grâce, complètement transformée. Nous, l'atavisme, hein, c'est lié au vieil homme, et c'est lié donc à tout ce qu'il y a avant la grâce. Tandis qu'en Marie, l'atavisme n'a pas existé avant. La grâce a existé avant. Et la grâce a pénétré tout. Je dis la grâce a existé avant, comprenez bien, simultanément. Dès qu'elle existe, elle est pleine de grâce. Dès qu'elle est conçue, elle est pleine de grâce. Et donc, tout est transformé en elle. Pour être le lieu absolument pur dans lequel le mystère de l'incarnation pourra se réaliser. Et parallèlement à Marie, les chefs religieux. Vous voyez bien les deux aspects, la hiérarchie visible et la hiérarchie invisible. Marie est au sommet de la hiérarchie invisible, c'est-à-dire elle est au sommet dans le mystère de l'amour. Elle est la plus aimée, la plus tendrement aimée par le Père. Et au sommet de la hiérarchie visible, il y a les grands prêtres. Et les grands prêtres n'ont pas accepté. Et les théologiens du temps, sauf un, Nicodème, n'ont pas accepté. C'est pas commode d'être théologien, vous voyez. C'est pas à cause de ça qu'on ne doit pas le naître. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas commode. C'est une situation périlleuse. Les grands prêtres, la situation est périlleuse, mais il n'y a pas de danger pour nous, n'est-ce pas? Tandis que les théologiens, le Sanhédrin, ça, c'est une race qui continue, n'est-ce pas? Docteur en Israël, c'est pas commode. Ils ont refusé. Comment ça se fait que Dieu ait permis? Alors on comprend que Jean réfléchisse. C'est sans doute Marie qui lui a dit de regarder ces textes. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Marie n'a jamais jugé son peuple. Elle l'a aimé jusqu'au bout. Et c'est peut-être la prière de Marie ou le regard de Marie à la croix. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait? À ce que nous avons fait entendre? Et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé? Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux et ne comprennent pas avec leur cœur et ne reviennent pas. Je les aurai guéris. C'est le Père, ça. C'est tout ce qui a blessé le cœur du Père. Marie, qui est entièrement attirée par le Père. Et les grands prêtres et les théologiens qui préfèrent leur conclusion théologique, leur recherche théologique à la petitesse de celui qui se laisse éduquer, se laisse éclairer. Je sais bien que c'était difficile, c'était même très difficile, c'était une terrible épreuve pour eux. Ils s'étaient fait une conception théologique du Messie. Et Jésus ne répondait pas à cette conception théologique du Messie. Ils s'étaient fait une certaine conception de Dieu. Et la révélation du Christ brise tout cela. C'est pas commode. Comme c'est difficile. Alors instinctivement, vous voyez, on veut se replier en croyant que c'est plus sûr. On n'accepte pas ce renouveau, cette reprise radicale dans l'amour. Et Dieu permet ça. Ce grand, grand mystère de la permission de Dieu par rapport au peuple d'Israël, par rapport aux grands prêtres, par rapport au Sanhédrin, par rapport à tout ce peuple qui se laisse conduire par l'autorité religieuse. Cette grande permission de Dieu, un grand, grand mystère qui a blessé le cœur de Marie, qui a blessé le cœur de Jean, qui a blessé le cœur du Père. C'est un très grand mystère. Les grâces de Dieu sont sans repentance. Et l'amour du Père continue à l'égard du Fils aîné. Le Fils aîné, hein, on le sait bien, avec l'enfant prodigue. On ne lui a rien retiré au Fils aîné, il reste le Fils aîné. Il reste fils aîné dans l'ordre de la parole. Et le Benjamin, il passe avant dans l'ordre du don d'amour. L'Eucharistie est donnée au Benjamin, à l'Église. Et avec l'Eucharistie, c'est tout le mystère de l'amour. La vie religieuse par le cœur de Marie et donné au Benjamin, à la toute petite enfant. pour être capable de vivre du mystère de l'Eucharistie, pour pouvoir vivre pleinement du mystère de l'Eucharistie. Et le Fils aîné, qui reste fixé sur ses droits de fils aîné, le droit d'aînesse, a beaucoup de peine de comprendre cette surabondance d'amour à l'égard du Benjamin, de celui qui n'a aucun droit à l'égard de Marie, celle qui n'ayant aucun droit passe devant. Il faut que nous demandions ça très fort à la Vierge Marie, à la fois de porter dans notre cœur la blessure qu'elle a connue à l'égard du peuple d'Israël, la blessure que le Père a connu, que Jésus a connu à l'égard de son peuple. Nous ayons un regard, voyez, vrai, théologal, un regard divin. Je crois que c'est cela que Jean nous apprend à voir. Il ne porte pas d'opinion théologique. Il est théologien parce qu'il veut dépasser son propre regard, selon ses propres expériences. Il ne fait pas la théologie de ses expériences. Non, on peut faire la philosophie de ses expériences, mais pas la théologie de ses expériences. C'est l'erreur. La théologie de nos expériences, non, c'est impossible. On diminue le mystère de Dieu quand on fait la théologie de ses expériences. Vous voyez, comme celui qui veut se conduire lui-même dans la vie, dans sa vie spirituelle, en disant « j'ai eu telle expérience, j'ai eu telle autre expérience, maintenant je comprends ce que je dois faire ». Pas du tout. C'est pas comme ça du tout, veut le Saint-Esprit. Puisque toujours le Saint-Esprit nous demande d'être conduit dans la petitesse de la foi et donc de se laisser mener. J'aurais pu donner une théologie à partir de son expérience, à partir de la compréhension qu'il avait du peuple d'Israël. Il aurait pu nous le faire. Il l'aurait fait avec beaucoup de grandeur, beaucoup de noblesse. Eh bien non, il s'efface. Vous voyez la différence entre saint Paul et saint Jean, là. C'est même très très curieux. Il faut de temps en temps mettre ces textes en parallèle, hein. Les grands textes de saint Paul, l'Épître aux Romains, les grands textes de saint Paul sur le peuple d'Israël. C'est étonnant, c'est beau, je dirais, c'est grand. Ce sont des textes qu'on doit souvent méditer. Et puis, cette sobriété de Jean. Alors, on voit très bien, Saul de Paul nous donne sa vue dans l'économie divine. Jean se tait. Il s'appuie sur le prophète Isaïe. Et le prophète Isaïe nous met directement en présence du mystère. L'action directe de Dieu. Et c'est une action directe de Dieu qui est présentée justement avec toute cette force. Il a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur. Et comme si c'était Dieu lui-même qui avait fait ça. Nous savons très bien qu'il y a toute une forme anthropologique, qu'il faut un anthropomorphisme qui est là, auquel il faut faire attention, on le sait bien. Mais c'est quand même très fort, ça. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, ne comprennent pas avec leur cœur et ne reviennent pas. Je les aurais guéris. Je les aurais guéris. La miséricorde du Père est là. Je les aurais guéris. Et en même temps, comme si Dieu ne voulait pas qu'il voie. Il y a là quelque chose qui est très impressionnant, comme si lorsqu'il s'agissait de regarder dans l'économie divine le peuple d'Israël, il faut se référer directement à la sagesse de Dieu, et uniquement à la sagesse de Dieu. C'est-à-dire au bon plaisir du Père. Et donc, nous, nous ne pouvons rien dire. Mais nous savons l'amour du Père pour eux. Et nous continuons de voir l'amour du Père pour eux. Les grâces de Dieu sont sans repentance. Je les aurai guéris. Alors ça nous oblige, voyez, de prendre vis-à-vis du peuple d'Israël. Et tout ça prend pour nous une acuité très particulière dans notre monde d'aujourd'hui. Cet événement temporel, le peuple d'Israël qui retourne à Jérusalem, le peuple d'Israël qui retourne sur la terre de Canaan. Je sais très bien qu'il y a eu au milieu de tout cela des actions politiques, mais tout ça, Dieu s'en sert pour quelque chose qui demeure mystérieux et très mystérieux et que nous devons avoir vis-à-vis du peuple d'Israël encore plus que vis-à-vis de n'importe quel autre peuple. Le peuple d'Israël n'a pas la même place. Il a une place unique, une place fondamentale. Et l'œcuménisme ne peut être vrai que s'il regarde le peuple d'Israël. Tant qu'il ne regarde pas le peuple d'Israël, il n'est pas complet. Parce que le peuple d'Israël fait partie fondamentalement du mystère de l'Église. Il fait partie fondamentalement. Les orthodoxes, les protestants font partie du mystère de l'Église. Ils se sont divisés, ils se sont séparés dans leur fondateur. À un moment donné, le peuple d'Israël, il a quelque chose de particulier. Et nous devons, vis-à-vis de lui, avoir un regard qui soit un regard vrai, théologale, au-delà de toute passion, et comprendre ce que Dieu nous demande de faire pour lui, si Dieu nous met en contact du peuple d'Israël. Si Dieu nous permet d'être proche de lui et d'avoir vis-à-vis de lui une possibilité d'un contact fraternel, sont nos frères et les frères aînés, pas toujours commodes comme les frères aînés, c'est bien évident. Et on peut avoir quelquefois peur quand on est des cadets, des benjamins, on peut avoir peur jusqu'à la fin de sa vie des réactions des frères aînés. Ça fait bien, Jacob a eu peur d'Ésaü, même quand il avait très bien réussi, qu'il revenait avec un grand cheptel et qu'il revenait avec des quantités, il avait peur. Et c'est très significatif ça. On peut toujours avoir peur. C'est pas du tout la même chose se trouver en face d'un orthodoxe, se trouver en face d'un protestant ou de se trouver en face d'Israël. C'est très différent. C'est le frère aîné. Il a comme un sens particulier. Je me souviens dans les contacts que j'ai eus à Paris avec le petit groupe œcuménique que j'avais, on avait fait venir le rabbin Eisenberg, on avait fait venir d'autres aussi. Mais je me souviens très bien l'attitude des protestants et des catholiques en face de lui qui, vous savez bien, un sens de la parole de Dieu qui est très profond, qui va très loin. Alors, il y en a un, c'est pas lui qui nous a dit ça. Un autre rabbin, quand on lui a présenté les catholiques et les protestants, il a eu cette réflexion. Oui, les protestants sont plus proches de nous par la parole. Et les catholiques sont plus proches de nous par le sacrifice. Parce qu'ils ont le sens du sacrifice. Et nous l'avons. Alors ça avait été quelque chose d'assez étonnant de voir ce double lien que lui-même révélait. Et c'est vrai. Les protestants ordinairement connaissent beaucoup mieux que nous l'ancienne alliance. Et Israël est sensible à ça. Mais Israël reconnaît que dans l'Église catholique, il y a le sacrifice, le sens du sacrifice. Et là, il reconnaît un héritage qui vient de lui et qui a passé dans l'Église catholique. Je crois que c'est très important pour nous, parce que nous devons réfléchir beaucoup à ce problème de l'œcuménisme. Nous y reviendrons, parce qu'il faut toujours y revenir avec la lumière de Saint Jean. Je vous ai déjà dit, la Samaritaine, hein, le grand évangile de l'œcuménisme, ici, ce lieu. Et puis nous retrouverons la prière du Fils bien-aimé. Je demanderai aux frères de la communauté Saint-Jean, c'est pas pour faire d'exclusivisme, mais j'ai un petit mot à leur dire. Alors je leur demanderai